おかしいおかしい。ひいひいひい。
Bonsoir, troisième consécutive objet de notre débat de ce soir dans cette seconde grâce, à savoir plus de 260 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels que est le bilan de l'accident du camion citerne survenu la semaine dernière à Sangué, un territoire de Vira, au sud de Kivu. Ensuite, la République démocratique du Congo a atteint le point d'achèvement de l'initiative pays pauvre très endetté depuis la semaine dernière. Enfin, la Cour pénale internationale décide de report de l'ouverture du procès Jean-Pierre Bemba. Participe à ce débat, trois confrères journalistes, il s'agit de Jean-Louis Miasekama, il est journaliste à la télévision Athéna, une télévision qui est née depuis Kinshasa. José Boto, il est directeur de programme de Off TV, c'est une télévision qui est née aussi depuis Kinshasa. Et Christian Maloula, directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Catastrophe de Sangué, atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE ainsi que le report du procès Jean-Pierre Bemba. Quels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir? Comment la presse chinoise a traité ces différents thèmes? Nous le saurons à travers cette revue de presse que nous présente Samuel Kassas.
Le drame de Sangué continue à faire la une des journaux parisiens à Kinshasa. L'Observateur renseigne que 5 jours après le drame, le bilan continue à s'alourdir, passant de 242 à 254 comme morts. Et c'est pour venir en aide aux populations victimes que le gouvernement de la RDC vient de lancer la campagne de solidarité nationale avec la mise sur pied d'une commission interministérielle SOS sur Kivu explique le potentiel. Le phare de son côté attribue ce drame de Sangué au sud Kivu à la misère généralisée des villageois rendus sourds aux recommandations du chauffeur du camion citerne qui insistait sur une probable explosion de la citerne et au mauvais état des infrastructures routières dans l'arrière-pays et enfin à l'absence d'une structure d'intervention rapide en cas de catastrophe et autres calamités dans le pays. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la fin du point d'achèvement. La référence plus affirme que les bureaux des deux chambres du Parlement congolais, ayant appuyé les efforts du gouvernement, se félicitent des décisions prises par le Conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international relatives à l'atteinte du point d'achèvement par la RDC. La tempête des tropiques qui se réfère à la réaction du comité politique monétaire qui s'est réuni mardi dernier à la Banque centrale du Congo recommande la prudence en appelant à la poursuite des efforts pour pérenniser la stabilité macroéconomique et améliorer le climat des affaires, élément essentiel pour une croissance forte et soutenue. Terminons cette revue de la presse avec le report du procès de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Nouveau report confirmé, Bemba, début du procès après le 20 août, c'est la une de la prospérité qui précise que la nouvelle est tombée comme un coup péré. Forum des As qui revient sur le même sujet constate que l'ancien vice-président de la RDC est appelé à prendre son mal en patience.
Merci, Samuel Kassas. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Jean-Louis Miasekama, vous êtes journaliste à la télévision Antenne A. Et comment appréciez-vous le travail de la presse chinoise depuis cette semaine?
Bon, je pense que la presse chinoise a essayé de se focaliser sur la qualité. Après, justement, c'est la semaine passée qui était la semaine plus centrée sur le 50e. Et bon, je pense que dans l'ensemble, elle a couvert essentiellement les grands événements. Et chacun allant de son angle, de son opinion, de sa vision, assez déposé. Bon, je pense satisfaisant.
José Boto, vous êtes directeur de programme des Off TV, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Votre commentaire?
Comme vient de le dire Jean-Louis, hein, c'est vraiment le résumé de ce qui s'est passé courant cette semaine. Bien évidemment, hormis peut-être, j'espère qu'on va en parler aussi, de ce sujet qui est tombé.
Il y a rapport au.
Depuis hier, en fait, hein, que les journaux ont commenté aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne, un bon résumé, en fait.
Christian Maloula, vous êtes directeur coordinateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Quelle est l'actualité qui a dominé la province de l'Équateur cette semaine?
Merci Mathieu pour l'opportunité que vous m'accordez. Je crois que les amis sont restés pratiquement sur la ligne de l'actualité qui a dominé le pays d'une manière générale. À l'état d'or, faut parler spécialement d'après le 30 juin et les différentes mesures prises par le gouvernement Bangui, c'est-à-dire le gouvernement de la province de l'Équateur, sur l'exploitation de bois de l'Équateur, qui ne devront pas partir d'une manière brute. Donc ce bois devrait être signé sur place pour permettre de créer l'emploi à l'Équateur. Voilà.
Merci. D'abord, nous allons commenter cette actualité. Comme vous le savez, le rapport de l'autopsie effectué le 11 juin dernier sur le corps de Floribert Béa venait tomber. L'équipe des médecins légistes congolais et néerlandais affirme avoir trouvé sur le corps du président de l'ONG de la Voix des Sans Voix des indications des contraintes externes limitées par choc, compression et ou enserrement au niveau des bras et des jambes. Dans le communiqué, l'autopsie n'a pas pu démontrer avec certitude la cause du décès. Toutefois, les observations sont fortement en faveur d'une cause primaire impliquant le cœur, car des anomalies préexistantes au niveau du muscle cardiaque ont été constatées, indique le communiqué. L'équipe précise par ailleurs que dans le cas des Floribert CBA, les causes de décès liées à l'administration des substances toxiques ont été exclues. J'aligne ce comment un commentaire au sujet de ce rapport de l'autopsie de Floribert CBA.
Oui, effectivement, j'avais effectivement lu exactement ce rapport. À voir que, au fond, on exclut déjà le cas d'un empoisonnement, ça c'est un fait. Mais de l'autre côté, on est plutôt dubitatif sur le fait d'évoquer le cas d'un assassinat par étranglement, bien qu'on admet que cela est en fait est atténué par le fait que le TFDA avait peut-être aussi des problèmes cardiaques. Mais j'ai aussi on peut poser la question, il fallait le problème cardiaque, mais il vivait avec et il vivait bien avec ça. Donc la thèse de l'assassinat reste toujours probante.
Vous faisiez beaucoup votre commentaire.
Maintenant, mon commentaire par rapport à c'est vrai que c'est un dossier qui fait très mal au cœur, hein, que quelqu'un puisse mourir pour ses opinions, hein, qu'on le tue pour ses opinions, ça c'est le cas de le dire maintenant, parce que avoir tout ce qui transparaît de ces rapports, et j'ai suivi aussi un de médecin néerlandais, enfin, je sais qu'il y a sur l'autopsie, c'est néerlandais là, il a dit qu'il n'exclut pas qu'il y ait une sorte de violence à l'endroit des pleurs CBA, c'est qui, bien évidemment, comme l'a dit aussi le rapport, maintenant on doit plus attendre un travail de fond au niveau de l'enquête, au niveau de la justice. Donc, maintenant, la balle est vraiment dans les cas de la justice. Et il appartient à la justice de faire montre de toute sa maturité et surtout de son impartialité.
Oui, Christian Aloula, votre réaction par rapport à ces rapports sur l'autopsie de Floribert CBA?
Oui, ce rapport vient à point nommé, dit Mathieu. C'est maintenant question de relier le rapport avec la circonstance de l'événement. Parce qu'il faut rentrer au début du commencement pour voir qui avait évité le regard sur l'IA. Tout le monde connaît, c'était la police qui a été invitée. Et puis les policiers ne sont pas n'importe qui, ce sont des personnes aguerries. Et il est sorti de la police à quelle heure? Où est-ce qu'il a été traumatisé? Ce sont des bonnes questions qui doivent être répondues. Alors moi je pense que pour le moment, il est plus question d'approfondir la suite et que le gouvernement congolais nous dise de quelle manière Floribert CBA s'est exclu des droits de l'homme a trouvé la mort, cette mort d'une façon ignoble qu'on fait aujourd'hui de ses forces.
Merci, nous passons à notre prochain thème de ce soir. Plus de 260 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Tel est le bilan de l'accident du camion qui ferme survenu la semaine dernière à Sangué, en territoire du Vira, au sud Kivu. Le président de la République, Joseph Kabila, est arrivé lundi dernier dans cette cité. Avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et 6 ministres du gouvernement central, la délégation est allée compatir aux souffrances des populations endeuillées de Sangué après la catastrophe de vendredi. Fiston Goma Laurent a suivi pour nous les parcours de la délégation.
Le long de la route, on pouvait observer des groupuscules à différents endroits. Le président de la République a été accueilli par une population meurtrie. C'est au centre commercial où l'attendait le vice-ministre de l'Intérieur que le chef de l'État a eu un accueil chaleureux. Malgré la souffrance, la foule a tenu à exprimer la joie de voir les chefs combattre à son malheur tout de suite devant les camions citernes calcinés et les maisons en cendres. La ministre du Territoire assistant Victor Thomasson explique la situation.
J'expliquais comment le camion est tombé, dans quelles circonstances. Il y a deux causes qui ont fait que le camion tombe. J'ai demandé qu'on trouve une solution plus rapide par rapport à la population qui est sinistrée. On était à 232. Ce matin, il y a eu 5 morts à l'hôpital et dans d'autres hôpitaux environnants, les maires, ainsi de suite. Donc, le bilan ne fait que s'allonger.
Après la visite à l'hôpital de Sangay, le président est allé s'incliner à Kianinga devant les tombes de 232 victimes décédées avant d'emprunter la route vers la cité d'Ouvira. Aucun message n'a été adressé à la population locale, ni à Sangay, ni à Ouvira, mais d'après le service de protocole, une visite était prévue à l'hôpital général où sont encore internés 43 blessés alors que 12 sont déjà décédés. À Sangay comme à Ouvira, les médecins chefs des zones de santé ont soumis un état de besoin pour la prise en charge effective de ces malades. D'Ouvira, Fiston Goumamayaba, la radio Capi.
Il faut noter que le bilan s'est alourdi. On parle aujourd'hui de 265 morts. Jean-Louis, nécessairement, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez appris cette nouvelle de Sangay?
Bon, c'est vrai que ça fait très mal, des compatriotes sont décédés. Et déjà dans la revue de presse, on parlait que c'est la base un peu, c'est la misère. On est arrivé à la rédaction en examinant ce dossier, en réfléchissant, en préparant nos reportages, sur la même conclusion. D'abord, il y a des normes de prudence qui n'ont pas été respectées. On dit que le chauffeur roulait à vive allure, qu'il a dû éviter un taxi mal stationné. Ensuite aussi, malgré les avancements du chauffeur, la population s'est ruée sur le carburant, sans penser aux conséquences de un carburant, au carburant très volatile. Et donc, ça fait très mal de voir pratiquement qu'on est en train de perdre plus de 300 personnes comme ça, de tous âges et surtout beaucoup de jeunes, dans une petite ville, dans un petit centre rural urbain. Bon, bien sûr, il y a une intervention vigoureuse, mais minimum, ça paraissait imprévisible, mais il faut penser à des règles de prudence strictes.
Excusez beaucoup, il faut penser à des règles de prudence comme vient de l'évoquer Jean-Louis Nassoukama. C'est vrai qu'il est difficile de prévenir ce genre de situation, mais y avait-il moyen de limiter les dégâts?
Bon, il y avait moyen de limiter les dégâts du matin si on se met à suivre ce qui se passe ailleurs. Parce que ce genre de situation, c'est plus vers le Nigeria qu'on constate ça. Hein. Il y a plein de situations comme ça, là où les gens se permettent de siphonner parfois les gazoducs. Bon, je me dis que si les autorités faisaient aussi leur travail d'éducation de la population, ou même les politiques, je ne sais pas, les politiques aussi qui passent un travail d'éducation de la population concernant certaines petites choses de la vie, des choses ne se seraient pas passées peut-être pas comme ça. Et puis bon, moi, Guy Maté, l'aspect qui m'a le plus, je dirais, choqué, hein, c'est la visite du ministre des Sports. Je n'ai rien contre lui, mais il est allé là-bas, il a promis qu'il va construire plein de trucs maintenant, hein, genre des installations sportives, ou même des grandes salles de cinéma. Maintenant, il y aura des grandes salles de cinéma appropriées, avec des grands écrans télé, parce qu'il y a eu des jeunes qui sont morts en regardant un match dans une salle. Est-ce qu'il faut attendre des situations comme ça pour construire ce genre de structure, quoi? C'est ça la grande question peut-être qu'on doit se poser, et la récupération qui est faite aussi de la chose. Je vois, il y a des infos, les gens ne vont pas me contredire, il y a même des reportages où les gens, parce qu'on a ouvert, on parle aussi d'une campagne de solidarité nationale, on a ouvert, je ne sais pas, des comptes pour ça, mais il faut voir comment ça se fait. Hein. Médiatiquement, il y a des gens qui, quand ils vont déposer un petit peu ces choses, c'est avec des caméras et tout. Mais c'est ça aussi le problème avec le Congo, notre pays, quoi.
Christian Maloula, je sais beaucoup dit qu'il faut un travail d'éducation. Comment vous, à l'Équateur, comment vous vivez cette situation quand on sait que à Mbandaka et dans plusieurs villes de l'Équateur, les commerçants appelés communément Kadhafi entreposent leurs marchandises dans leurs maisons. Comment vous vivez cette situation là-bas?
Excusez-moi d'abord de présenter mes condoléances le plus attristées à toute cette famille de l'Est et en même temps remercier le président de la République, je cite Joseph Kabila, pour avoir effectué ce déplacement de l'Ouest à l'Est. Et c'est un véritable réconfort moral pour cet incident malheureux. mais je voudrais, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est la misère qui gangrène le peuple congolais qui est à la base, et les camions qui ferment et qui se renversent.
Allô? Apparemment, nous avons perdu Christian Maloula et Jean-Louis Nassekama. Bonsoir, évoqué le travail d'éducation de la population. On vient d'apprendre que trois enfants sont morts à Tipapa hier dans un dépôt de carburant. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, il y a comme il dit, un problème d'éducation, mais il y a un problème aussi de l'autorité de l'État. Parce que revenons au cas de 5. L'accident, le renversement du camion a lieu à 16h. L'explosion à 18h. S'il y a peut-être une heure, deux heures, pendant tout ce temps-là, que faisait la police, que faisaient les autorités de Sangui, que faisaient toutes les forces de l'ordre vers Sangui, pour s'interposer, interdire que l'on s'y fasse dessus, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous parlez à Tikapa, trois enfants sont morts suite à un incendie dans un dépôt de carburant, qui se trouve même en pleine cité dans les maisons. Est-ce que les autorités, est-ce que la police ne sait pas qu'il y a un dépôt de carburant qui n'est pas isolé? Et qui a côté se déposer des enfants, des familles, etc. Qu'est-ce qu'ils font?
Justement, c'est cette situation qui va nous aider à approfondir des réflexions sur la gestion des produits comestibles dans ces pays où on sait qu'il y a même des stations qui sont construites, qui sont contiguës en fait à des maisons.
Tout à fait. Et donc, on veut bien éduquer, mais d'abord la loi, les règles. Et après, quand on les applique, on peut aussi commencer à sensibiliser. Parce que déjà, les appliquant, c'est un premier avertissement. C'est une première formation, c'est une première information. Et ça passe. C'est-à-dire, quand on arrive dans une station, on dit éteignez portable, éteignez moteur, je ne sais pas encore quel autre élément, pas de cigarette, pas ceci, ainsi de suite. Le fait de voir, c'est déjà une information. Et certains voient, si quelqu'un, il voit une autre personne qui veut allumer une cigarette, décrocher son portable, il l'indique. Des fois, dans des gens contestent, non, je peux quand même répondre à cet appel, etc. Mais il y a déjà, c'est l'autorité de l'État, l'information. Et je pense qu'après l'éducation devient plus facile. Parce que, en fait, c'est souvent dans ces cas d'accident, dans ces cas d'incendie, qu'on voit la réactivité et l'efficacité des autorités compétentes.
José Boto, Jean-Louis Nassekama, j'ai parlé d'un manque d'application de loi. Est-ce que c'est votre avis?
Bah oui, c'est mon avis. Et ça, c'est tous les jours qu'on le voit ici au Congo. La loi, les gens parfois, ils s'imaginent que la loi, elle est faite pour une catégorie d'individus et ça ne concerne pas. C'est seulement quand une situation comme ça nous éclate à la figure qu'on se rend compte qu'il y a danger. Et c'est vrai que c'est pas seulement. Jean-Louis tout à l'heure parlait de ces gens qui gardent même leur carbone. Vous l'avez dit aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des gens qui gardent des carbones chez eux. Aujourd'hui, avec cette histoire de délestage, tout le monde a son petit groupe électrogène à la maison et ils utilisent parfois aussi l'essence. Les gens prennent les précautions par rapport à ça aussi, non? Je me rappelle quand une certaine fois qu'on interdisait d'acheter l'essence avec le bidon. Hein. Je ne sais pas si cette loi-là, on l'a jetée ou oubliée. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on voit des jeunes gens acheter du carburant dans un bidon ou même dans un petit truc, un petit bocal comme ça. On ne sait pas que c'est quelque chose de très dangereux. Et il ne faut pas qu'on. Moi, je me dis toujours que mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Hein. C'est ce qui devait être notre leitmotiv, nous autres Congolais, pour ces prochains 50 ans, peut-être. Voilà.
Oui, Christian Aloula, je crois que vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne,
Oui, j'ai demandé comment cette situation est vécue à Mandata et dans toute la province de l'Équateur.
Mais j'ai dit que nous avons cette attitude. Je disais tout à l'heure que j'ai partagé le même point de vue que la revue de presse, et c'est la misère qui est à la base de cette attitude. Comment vouloir accepter que plus de 300 personnes se retrouvent pour chercher un peu d'essence? Ce n'était pas pour mettre dans leur groupe électrogène ou dans leur voiture, mais surtout dans le besoin de vendre pour attraper un peu d'argent. Moi, je pense que dans l'avenir, le gouvernement congolais devra prendre beaucoup d'initiatives pour essayer d'éviter ces genres de drames. En deuxième lieu, j'allais dire que le déplacement du chef de l'État nous a beaucoup marqué et c'est un véritable signe parental pour conforter et réconforter son peuple en difficulté. Mais il aurait fallu que le président le fasse également pour toutes les provinces. Non seulement les provinces de l'Est, car elles ont des problèmes. Il n'y a pas longtemps, plus de 40 personnes n'ont trouvé la mort à l'Isala, un véhicule se renverse. Je vous dis, je reviens à 64 km de l'Isala. Donc, un véhicule se renverse, il y a eu plus de 40 personnes qui ont trouvé la mort. Et on n'a pas de peur aussi.
décidément, il y a des problèmes sérieux avec la ligne des Christian Maloula. Jean-Louis, c'est comment? Il existe un avant-projet de loi sur la protection sociale qui prévoit un fonds qui devrait être géré par une structure dénommée Agence nationale d'action humanitaire. Mais cette aide n'est pas encore, on n'a pas encore été soumis au Conseil des ministres. Est-ce que ce genre de situation ne peut pas accélérer en fait les mécanismes pour que ce genre de textes soient adoptés?
Oui, mais cela, il faut aussi que justement les députés accélèrent un peu les choses, exigent au gouvernement pour mettre en pratique, et surtout, une fois que le texte de loi est voté, ça devient une obligation que les structures soient mises en place et qu'elles puissent être bénéficiées de toute l'expertise nécessaire en l'adaptant à la situation congolaise. Parce que dans ce cas, le service de direction d'action sociale et humanitaire, il faut nécessairement des infrastructures, des bureaux, des entrepôts, il faut certainement des moyens de communication, des moyens de transport, etc.
Pour alimenter ce fonds.
Et comment préparer les gens pour être vraiment efficaces? Est-ce qu'il ne faut pas des fois apprendre d'autres pays, essayer aussi de les tester dans d'autres catastrophes en dehors pour être vraiment efficaces et faire vraiment le travail requis?
Oui, José Boto, quelle leçon pouvons-nous tirer après cet accident des familles?
La leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut que chacun joue son rôle, quoi. Surtout que l'autorité de l'État soit effective partout. Il ne faut pas que la police soit là seulement pour, je dirais, entre guillemets, traiter des dossiers, des petits dossiers où le PJP s'est tapé un petit 1000 francs ou 2000 francs et se mettre dans la poche. Il faut aussi que la police joue son rôle de sécurisation de la population. Et ça, c'était le rôle de la police de le faire dans ces genres de dossiers, dans ces genres de cas. Et je me dis que, prochainement, on ne souhaite pas qu'on ait ces genres d'incidents ou d'accidents encore dans notre pays. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon à souhaiter. Mais que si prochainement il y a ce genre de situation, comme l'a dit Jean-Louis, s'il s'est passé plus d'1h30 que la situation était là, que le truc s'était renversé, s'il y avait la police était là pour vraiment jouer son rôle, le situation ne s'est pas. Et c'est ici l'occasion pour interpeller les autorités chargées de la sécurité de la population, de vraiment faire un effort, de faire leur travail, quoi.
Jean-Louis, c'est comment, quelles leçons pouvons-nous tirer après ce drame des samedis?
Bon, on peut tirer beaucoup de leçons, seulement même par la manière de construire nos routes et les maisons, la distance. Comment un camion s'est renversé pratiquement sur la route a pu causer l'incendie d'une salle de cinéma où il y avait plusieurs personnes et d'autres personnes. Comme j'ai rencontré encore le témoignage de Gaston qui disait que le feu le poursuivait, il a dû fuir à la maison, mais il a été brûlé. Il y a le fait que maintenant il faut vraiment développer des politiques qui chasse la misère. Et puis sur la question des transports, pour veiller à la sécurité, peut-être faire des routes plus larges, des routes moins tortueuses, trouver peut-être des chemins appropriés pour tout ce qui est poids lourd, camions citernes, parce que même je me souviens, il y a eu des problèmes comme ça. Une fois en Espagne dans les années 70, il y a des gens en vacances qui ont pratiquement tous volé parce que un camion citerne s'était renversé, il avait des produits toxiques et brûlants. Et le reporter de la RTS de l'époque disait: si vous êtes derrière un camion citerne, prenez vos distances, même s'il n'a que du lait ou du sucre. Donc il y a tout un ensemble de...
Des dispositions qu'on prend pour prévenir ces genres de catastrophes.
Tout un ensemble de dispositions, effectivement, qu'il faut prendre, et tout un ensemble de réactions et de réactivité. C'est-à-dire que là, il y a eu un retard de réaction, et la catastrophe est arrivée.
Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La République démocratique du Congo a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés depuis la semaine dernière. Vous le savez, la RDC a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, IPPP en sigle. C'est ce qui ressort des réunions des conseils d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais qu'est-ce que cela implique? Explication avec Beryl Itaka.
C'est en principe maintenant que commence le processus de l'effacement de 90% de la dette extérieure du Congo dans le cadre de l'initiative PPTE. Cette dette était estimée à 13,7 milliards de dollars américains. Après allègement, il n'en restera plus que 1,7 milliard. Atteindre le point d'achèvement veut dire que la RDC a réalisé avec satisfaction les 7 critères du programme conclu avec le FMI et la Banque mondiale. Ces critères dits les 7 déclencheurs, parmi lesquels on peut citer la bonne gestion des finances publiques, c'est-à-dire ne dépenser être ce qu'on a en caisse. L'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, était un programme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale voté en 1996 qui vise à assister les pays les plus pauvres du monde et dont l'économie est étouffée par des dettes internationales qu'ils n'arrivent pas à payer. La RDC est inscrite à ce programme depuis 2003 et il a fallu 7 ans pour qu'elle accède à ce point d'achèvement. L'étape qui suit le point d'achèvement consistera à ce que la RDC et ses différents créanciers établissent les documents juridiques consacrant l'annulation de la dette pour éviter un quelconque revirement de la situation dans l'avenir. Aussi, le FMI a conseillé au gouvernement congolais de ne plus solliciter des financements dont le taux d'intérêt dépassant les 5% pour ne pas retomber dans le surendettement.
Christian Maloula, vous êtes de nouveau en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Oui, la RDC a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPE. Comment analysez-vous cette nouvelle?
Ah, c'est une très bonne nouvelle. Nous en sommes très très bien contents que nous sommes arrivés à ce niveau de point d'achèvement. Je pense que les Congolais doivent vraiment se réjouir. Il n'y a plus que nous voulions. C'est un légement de tête. Soit passé dans le vécu quotidien des Congolais. Et nous voudrions voir les dollars revenir à la baisse. Et nous voudrions également voir l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Les salaires retardés. Et l'aménagement également nécessaire. Ce matin, je suis à travers la radio et la télévision, à qui de ça, ce sont les fonctionnaires qui revendiquent lundi. Mais je pense que ce serait un peu trop tôt. Maintenant que les baisses viennent de se passer, c'est juste le temps de donner un peu d'état également au gouvernement qui va se reconstituer et revoir sérieusement la situation sociale du peuple congolais et réduire la misère. Alors nous pensons que cet effacement des dettes ou la réduction des dettes pourra véritablement contribuer à l'essor socio-économique du peuple congolais. Et nous en voudrions également, en même temps, appeler les gouvernements congolais à appliquer la bonne gouvernance et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vont pas seulement les aider. Mais qu'ils ont consenti vraiment cet effort, nous remercions quand même ce gouvernement pour avoir atteint ce niveau-là, mais qu'ils fassent encore une fois de plus preuve de dépassement pour que le peuple congolais sente réellement la réduction des dettes de notre pays.
Oui, José Boto, vous, comment vous expliquez l'espoir que suscite cette nouvelle d'atteinte de l'achèvement de l'initiative PPE?
Moi, c'est vrai que je ne suis pas très, très porté vers la chose économique, mais ce que j'ai le plus apprécié dans ces dossiers de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPE, c'est plus le côté où on vous dit maintenant vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez dans la caisse, et en plus, ça vous aidera à être un peu plus, je vais dire, fréquentable.
La bonne gestion des finances publiques.
Oui, d'abord, et puis la RDC aussi a le droit maintenant d'emprunter. Alors, c'est peut-être ici l'occasion d'emprunter pour faire des choses intéressantes, ou d'occasion pour le gouvernement de faire des choses intéressantes. Alors, on a le droit maintenant d'aller demander un prêt quelque part. Avant, ce n'était pas le cas. Alors maintenant, comment on a ces droits-là? Parce que on a des richesses ici, on a plein de richesses ici. C'est aussi l'occasion ici, peut-être pour nous, de pouvoir mettre l'accent sur l'aspect aussi amélioration du climat des affaires. Parce que l'amélioration du climat des affaires, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure dans votre reportage ici, dans votre papier, c'est très intéressant parce que là, vous attirerez les investisseurs, comme c'est un pays fréquentable, ils peuvent venir investir ici et créer des richesses et les développer. Quand vous n'avez pas un poids sur le dos, quoi. Je me rappelle encore vers les années 80-90, je voyais dans les jeunes Afriques, hein, on montrait les Africains avec un fardeau, un gros fardeau sur le dos, le fardeau de la dette. Maintenant, ce fardeau-là, on le descend. C'est une occasion pour nous de pouvoir peut-être prendre un élan pour notre développement.
Nécessairement, vous êtes expert dans les questions économiques. Et d'abord, comment vous analysez cette nouvelle d'atteinte de l'initiative EPT?
La RDC est le 31e pays qui bénéficie de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Il était question, comme on l'a dit, de 12,3 milliards de dollars sur une dette de 13 milliards 6,7, dont 1,2 milliard sont pris en charge par les institutions de Bretton Woods et les institutions multilatérales dans le cadre de l'initiative de l'annulation de la dette multilatérale. et 11,1 milliards par tous les pays emprunteurs qui empruntent à la RDC.
La Côte de Paris.
La Côte de Paris, notamment. Et donc, c'est au pays maintenant, parce que les négociations continuent, à voir un à un les différents pays. Certains ont déjà fait l'annonce de la notion de la dette, je pense à la France, aux États-Unis, à la Belgique. Et
pour préciser que la RDC n'a pas encore bénéficié de cet allègement, c'est le processus qui commence.
Le processus qui commence parce que en tête de pont, comme leader de cette élite, c'est justement le FMI, la Banque mondiale. Et généralement, même quand on veut négocier des allègements de dette, qui est de manière bilatérale, on nous recommande de voir d'abord de régler nos affaires avec le FMI, la Banque mondiale. Et mais comme ils ont enclenché, bon, le processus peut continuer. Ça, c'est une chose. Alors, ensuite, par exemple, le cas d'espèce pour l'information de l'opinion, il doit savoir que cette année, on devait payer à peu près 320 millions de dollars de dette. On n'en paierait que 15 à 20 millions. 300 millions sont épargnés. Mais ce qu'attend les espèces de Bretagne qui nous ont accordé ce fonds d'assainissement, c'est que ces 300 millions soient utilisés pour des dépenses trop pauvres.
Oui.
C'est-à-dire des dépenses qui sont censées réduire la pauvreté, qui sont censées bénéficier aux secteurs sociaux comme la santé, l'éducation et même le social, personnes vulnérables par exemple. Et donc et de ce côté-là, il y a beaucoup à faire. Ça, c'est en fait, je peux dire, le tableau. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est pas un chèque en blanc pour s'endetter davantage. Déjà qu'on qualifie cette dette de 13 milliards 700 d'odieuse. Dans le sens que ce sont des dettes qui ont été prises de manière pour la plupart irresponsables et qui ont fait souffrir la population qui n'a pas bénéficié de ces enfants. Et donc maintenant, les institutions de Bretagne recommandent, donc le FMI recommande spécialement à la RDC d'un endettement responsable en tant que pays pauvre très endetté, qu'on reste encore. On est toujours un pays pauvre, peut-être moins endetté, mais on reste un pays pauvre. Pas un pays à revenu intermédiaire, pas un pays en transition, encore moins un pays riche, ni un pays maire. Et donc, l'endettement doit consister en des prêts à taux concessionnel, c'est-à-dire moins de 5%, voire même 1%, 0%, sur des délais de remboursement très longs, 10, 20, 30, 40, 50 ans, voire, qui ne pèsent pas, en fait, sur les générations futures. Et puis, une bonne majorité des aides doivent constituer des gains.
Et vous pensez que l'atteinte du point d'achèvement constitue une panacée?
Pas une panacée, mais un levier. Parce que, en même temps, cela nous a demandé des sacrifices à la population congolaise, au gouvernement de ne pas dépenser plus que la manche, donc ne pas dépenser de plus qu'il a en caisse. Mais, je me souviens, ça, il ne faut pas être amnésique, que, à l'arrivée, au départ de Dizenga et à l'arrivée de premier ministre Mouzito, on avait le dollar à 530. Et il est vite passé à 230 dollars. Et il a fallu, maintenant, fermer les vannes, pour que l'on puisse avoir une stabilité autour des 900 francs le dollar. Et donc cela veut dire que les germes qui ont souvent retardé ce point d'assainissement sont bien présents. Et c'est pour ça qu'on doit avoir encore de manière plus drastique. Ça serait, il faut encore réduire davantage le train de vie de l'État. Et que même si la politique dirige l'économie, on souhaite obtenir une bonne économie et une bonne politique. Ce n'est pas un problème de réduire encore la taille du gouvernement, de réduire la taille du cabinet du Premier ministre, et peut-être d'autres dépenses inutiles pour pouvoir avoir soigné la qualité de la dépense qui a un véritable impact social, qui permet d'augmenter des salaires sans raviver l'inflation, sachez que pour le moment, avec le comité de politique monétaire la dernière fois, le conseil était que le taux d'inflation était de 4,5 et selon les prévisions, l'inflation au 31 décembre, à ce rythme, est en deçà, et en deçà de ce qui est prévu. C'est 15% de prévision d'inflation cette année, mais selon le rythme de la gestion macroéconomique, à ce rythme, on sera à 9,17.
Christian Malula, dans ces pays, il s'est toujours posé un problème de bonne gouvernance. Et pensez-vous que cette fois-ci, un accent sera mis sur ce point pour que les choses marchent convenablement?
Oui, bien dit, dans notre pays, nous avons toutes les potentialités qui peuvent nous conduire très loin de là où nous sommes. Mais il est fort qu'on ait tellement la volonté. C'est le problème de la volonté. Les gouvernements congolais ont voulu aujourd'hui que nous arrivions à l'achèvement de l'initiative PTT. Nous y sommes. Il est fort aussi sur des actions politiques qui rendent compte de la responsabilité qu'ils ont. La bonne gestion des affaires, la bonne gouvernance. Au pays arrivé, tout est centré sur la volonté. Les moyens sont là. C'est le problème de la volonté.
José Brito, donc il faut, comme le dit Christian Malula, il faut une certaine volonté pour que le fait d'avoir atteint le point d'achèvement de l'initiative PPE puisse avoir un impact réel sur le social du Congolais.
Moi, pas seulement la volonté, moi j'ajouterais aussi le sérieux. Le sérieux dans le train des idées de l'État. Et là, j'ai raison, le président Kabila, parce qu'il a fait un speech par rapport à ces points d'achèvement de l'initiative PPE qu'il adresse à la nation. Et là, il a insisté sur la tolérance zéro maintenant au niveau de la gestion même de la chose publique, quoi, hein, de la gestion de tout ce qui est argent public. C'est des minorations des taxes, et puis même des recettes, minorations des recettes, les taxes qui ne sont pas payées, et tout ça. Bon, tout ça, en fait, c'est une interpellation pour nous. Hein. Le civisme fiscal aussi, il faut qu'il intègre le mental des Congolais ou des hommes d'affaires congolais, et j'espère que là, on pourra respirer.
Ici, nous passons à notre dernier thème de ce soir. La Cour pénale internationale décide du report de l'ouverture du procès Jean-Pierre Bemba. Le procès Jean-Pierre Bemba n'aura plus lieu le 14 juillet prochain comme initialement prévu. La décision du report de l'ouverture du procès dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba a été prise mercredi dernier par la Chambre de première instance 3 de la CPI qui s'occupe de cette affaire. Et pour cause, cette instance considère qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'exception d'irrécevabilité soulevée par la défense soit transférée par la chambre d'appel avant l'ouverture du procès. On écoute à ce sujet Paul Madidi, qui est le chargé des communications de la CPI en République démocratique du Congo.
Vous vous rappellerez que le 24 juin, les juges de la chambre de première instance avaient rejeté les exceptions d'irrécevabilité et d'abus de procédure soulevées par la défense. Et les avocats de M. Bemba ont à leur tour interjeté appel contre cette décision-là. Et le 5 juillet dernier, ils ont demandé un effet suspensif à leur appel. Aujourd'hui donc, les juges de la chambre de première instance considèrent qu'il serait inapproprié de commencer le procès alors qu'il existe devant la chambre d'appel cette question de savoir si les procédures devaient être suspendues ou pas et dans l'attente de l'arrêt sur l'appel de la défense. Il n'y a pas encore une date fixée pour l'ouverture du procès. Il va se tenir le 20 août 2010 une conférence de mise en état au cours de laquelle les propositions de chaque partie sur la détermination d'une nouvelle date d'ouverture du procès seront données.
Jean-Louis Miasukama, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis tout ça. Les procès Jean-Pierre Bemba, une fois de plus, reportés. Votre réaction?
Non, qu'est-ce que vous voulez, on va de report en report, c'est un peu comme l'enfer espagnol, c'est-à-dire, parce que dans l'enfer espagnol, aujourd'hui c'est l'huile qui manque, demain ce sera la marmite elle-même, après c'est le feu, et bon, on aura au point de ne jamais être grillé. Donc, on a l'impression que cette fonction de prolongation, on se situe maintenant dans une bataille de procédure, mais pas dans la bataille pour découvrir la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendons voir et regardons.
Oui, José Boto, je rappelle que vous êtes directeur des programmes des Opos TV, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Pensez-vous que l'exception d'irrécevabilité, soulevée par la défense, pourra aboutir à l'annulation du procès Jean-Pierre Bemba?
Bon, vous savez, c'est pas évident de le dire, hein, parce qu'on a vu les rebondissements. On se croyait, à une certaine époque, on croyait qu'il y avait une étude pour Jean-Pierre Bemba, et après, il y a eu encore blocage au niveau de la CPI. Et maintenant, il y a encore ces problèmes d'irrécevabilité, mais qu'on attend de voir comme vient de dire en lui. Mais seulement ce que moi, je constate avec la CPI, c'est vrai qu'il y a cette image qu'elle véhicule d'une justice pas vraiment juste, quoi. Ah, et je me dis, là, vous ne voulez pas aussi le problème de notre compatriote Thomas Lubanga. Vous savez aussi que son dossier, c'est que c'est l'occasion d'en parler aussi. Maintenant, c'est carrément le procureur a refusé de donner les noms de ses de son informateur, son troisième informateur, et là, le procès s'est arrêté. Le juge dit si, non, parce que non, là, il ne continue pas le procès. On risque d'avoir le même problème, mais les dangers, moi, c'est plus le côté politique qui m'inquiète pour Jean-Pierre Bemba surtout, parce qu'on va de report en report, et c'est de plus en plus, je veux dire, certain qu'il sera hors jeu pour les échéances de 2011. Hein.
Question à Lula, la décision prise par la Cour, hein, cette décision qui vise à reporter le procès Jean-Pierre Bemba, est conforme à la démarche que mène la défense de Jean-Pierre Bemba, parce que l'appel de la Cour qui avait été introduit par cette défense avait un effet suspensif. N'est-ce pas que la Cour avait raison de reporter ce procès?
Oui, mais peut-être aussi non. Moi, j'aimerais qu'on appelle ça aujourd'hui la Cour politique de la haine, plutôt qu'on appelle ça la Cour pénale de la
haine.
Non, mais je l'ai dit conséquemment. Les dossiers Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas, même si ils n'ont pas fait comprendre, même si on n'a pas fait le droit, nous ne sommes pas juristes. Mais nous arrivons quand même à comprendre que c'est un dossier qui a été résolu depuis la République centrafricaine. Les deux frères, ennemis d'hier, sont aujourd'hui assis autour d'une même table. Un problème qui a été traité par la Cour suprême d'un pays, qu'est-ce qu'il a à voir à la Cour pénale internationale? La Cour pénale internationale n'est pas au-dessus de toutes les cours et les tribunaux du pays. C'est une affaire qui a été déjà réglée. Et la Centrafrique a dit clairement que c'est un problème clos, il n'y a plus de problème. Mais pourquoi Moreno s'est lié coûte que coûte à ce dossier de Jean-Pierre Bemba si la politique extérieure, comme l'a dit mon prédécesseur de tout à l'heure? Alors, si le Cour pénale international se compromet de cette façon-là, je ne vois en quoi elle va jouer de sa crédibilité au niveau international. Et une Cour qui n'a été instituée, c'est pour les Africains seuls. Et la majorité de ces Africains, ce sont les Congolais. Espérons que la procédure entamée pourra aboutir pour que les champions de bas ne soient pas jugés et qu'ils soient tout simplement acquittés parce qu'il a beaucoup de bonnes raisons de quitter la prison.
Oui, Jean-Louis, comment vous entrevoyez la suite de cette affaire?
Bon, ça ne se fait pas dans le secret des dieux, encore moins dans le secret des juifs, mais je pense que la justice doit être faite, le droit être dit, et comme a rappelé mon prédécesseur à combat, c'est-à-dire que la CPJ, sa crédibilité, pour ne pas dire son âme. Donc il serait quand même intéressant qu'une cour, c'est pour que dire le droit et pour que la justice soit faite. S'il y a eu des victimes, ils attendent justice. Si, par exemple, le procureur s'est trompé de victime, quelle crédibilité peut avoir maintenant la CPI et tous les dommages causés à ceux qui sont dans ces vols?
Oui, José Boto, vous, comment vous entrevoyez la suite de cette affaire?
Moi, je rêve pas. Je rêve pas, on voit ce qui s'est passé. En fait, cette justice internationale, surtout. Je prends l'exemple de Charles Taylor. Ça fait combien de temps que son procédure? Je ne sais pas s'il y a un procès initié au niveau de la justice internationale et un procès qui soit expéditif ou qui prenne le temps normal, un temps normal. Non, c'est toujours 2, 3, 4, 5, 6 ans. Alors avec ces procès aussi, il ne faut pas qu'on se mette à rêver. Moi, je me dis, je suis pessimiste, mais bon, je suis réaliste au moins. Je me dis que le bout du tunnel, en tout cas pour Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas pour demain. Non.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Goy était à la technique, Alain Hirung à la réalisation assistée de Samuel Katak, sous la supervision de Félicité Lamondo. Guy Maté vous a présenté cette émission. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Oh, my God.